Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, la réforme des retraites relève-t-elle du conflit de génération ? Vous verrez que beaucoup qui verront les avantages du nouveau système trouveront que cela ne va pas assez vite. J'en prends le pari, nous disait Édouard Philippe le 11 décembre en présentant le projet du gouvernement. Mais alors pourquoi attendre ? Pourquoi, quelques minutes plus tôt, annoncer que la bascule s'opérera pour la génération 1975 et non 63, comme cela était d'abord envisagé ? Si la réforme est juste, pourquoi la repousser ? Pour tenter de la faire passer ? Dans le même temps, s'il s'agit véritablement de sauver le système et les pensions de demain, alors comment s'y opposer ? De quoi réactiver les discours sur la génération sacrifiée, pendant que dans les manifestations, les générations sont mélangées. Juliette Chapelier est en route et devrait nous rejoindre dans un instant, secrétaire générale de l'UNEF, syndicat étudiant qui, comme d'autres organisations de jeunesse, est mobilisée contre ce projet. Avec nous, Serge Guérin, bonsoir.
Mes hommages.
Sociologue, spécialiste du vieillissement, parmi vos livres, La guerre des générations aura-t-elle lieu ? Coécrit avec Pierre-Henri Tavoyot, publié en 2017 aux éditions Calmann-Lévy. Et au téléphone avec nous, Guillaume Duval, éditorialiste au mensuel Alternatives économiques. Bonsoir à vous. Serge Guérin, j'ai cité votre livre à l'instant, La guerre des générations aura-t-elle lieu ? Vous répondez non. Et vous expliquez très bien pourquoi. Néanmoins, dans des interviews plus récentes, vous accusez le gouvernement de nourrir ce discours autour du conflit de génération, notamment avec cette réforme des retraites.
Oui, c'est vrai que quand on a écrit le livre, on n'avait pas pensé à la situation actuelle. Et c'est vrai que depuis ce nouveau gouvernement, c'est vrai qu'il y a un discours assez étonnant pour des gens qui sont dans le « en même temps ». Il y a plutôt une tentation d'accuser les plus vieux, les retraités qui seraient des privilégiés, les retraités qui sont des inactifs, c'est-à-dire qui ne servent à rien, c'est ça qu'il y a dit derrière, qui ont trop d'argent, ainsi de suite. Donc on a augmenté la CSG, on n'a pas fait évoluer les pensions, ainsi de suite. Bon, et puis là, c'est cette idée de génération à partir de 1975, où de fait, on peut dire, mais on oppose un peu les générations. Ce que vous disiez, ou bien c'est une loi qui est mauvaise, et dans ce cas-là, c'est dégueulasse de la réserver aux plus jeunes, ou bien c'est une loi qui est géniale, et dans ce cas-là, c'est pas bien de l'interdire aux plus vieux. Donc il y a, dans les deux cas, il y a un truc un petit peu bizarre. En tout cas, ça crée de fait un sentiment désagréable d'opposer les générations, et ça va donner du grain à moudre à toutes les personnes qui pensent qu'en effet il y a un conflit de générations.
Alors Guillaume Duval, on va entrer tout de suite dans le détail, dans l'aspect technique de cette réforme. L'un des changements majeurs avec ce nouveau système, c'est la prise en compte de l'ensemble de la carrière. Or on sait effectivement que celles et ceux qui sont arrivés dans le monde du travail à partir des années 90, milieu fin des années 90, ont commencé à travailler plus tard, souvent avec des contrats plus précaires. On peut donc penser effectivement qu'ils vont être plutôt défavorisés par ce nouveau système.
Oui, a priori, c'est vraiment ce qu'on peut penser. Alors, le système actuel dans le secteur privé prend en compte les 25 meilleures années. C'est-à-dire que sur une carrière qui fait un peu plus de 40 ans, ça veut dire que vous avez le droit d'avoir eu 15 ans avec du chômage, des contrats précaires, etc. Si vous avez eu 25 années pendant lesquelles vous avez eu un emploi stable avec un bon salaire, c'est là-dessus que sera calculée votre retraite. Donc si on prend en compte l'ensemble de la carrière, on peut penser en effet que tous les gens qui ont eu des difficultés dans leur carrière seront plutôt pénalisés, en particulier pour les jeunes qui n'auront pas eu la chance de faire des très grandes écoles et d'avoir tout de suite un CDI bien payé, qui seront sortis des universités et qui auront eu galéré pendant une petite dizaine d'années avec des CDD, des emplois précaires, etc., que ces gens-là seront plutôt pénalisés par le nouveau système. Oui, c'est un peu ce qu'on peut craindre.
D'autant que, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on est très diplômé, ça n'est plus la garantie, on le sait bien, d'avoir tout de suite un contrat voilà, à durée indéterminée, une situation stable dès son entrée dans le monde du travail.
Oui, enfin, quand on est très diplômé, qu'on a fait des très longues études, ça peut être un des avantages du système proposé. Un des avantages du système proposé, donc, c'est ce fameux âge d'équilibre à 64 ans. Ça consiste à dire que on est plus pénalisé si on atteint 64 ans, on n'est plus pénalisé. C'est vrai qu'avec le système actuel, donc bientôt les gens devront avoir travaillé 43 ans. Donc si on a fait des longues études, on risque d'être obligé d'aller jusqu'à 67 ans pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Donc là, sous cet angle-là, ce que propose le gouvernement peut être plutôt un avantage pour ceux qui ont fait des très longues études, mais à l'inverse, ça présente par contre un inconvénient majeur pour ceux qui en ont fait de très courtes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler à 20 ans. Ceux-là, aujourd'hui, ils peuvent partir à 62 ans et avoir une retraite complète. Ce serait plus le cas avec le nouveau système. Donc, il y a des gagnants et des perdants sous cet angle-là. Et les gagnants, c'est plutôt ceux qui ont fait des longues études. Alors, c'est vrai que vous avez raison de dire que ceux-là peuvent avoir un peu de précarité au début de leur carrière. Mais enfin, toutes les études montrent que le diplôme, quand même, protège, du point de vue de l'emploi, protège du point de vue du salaire. Donc, ça reste malgré tout plutôt les privilégiés qui risquent de profiter du nouveau système et plutôt les gens des couches populaires qui n'ont pas pu faire des très longues études qui risquent d'être pénalisés.
Alors, on va revenir un peu plus tard avec vous, Guillaume Duval, sur cette question de l'âge pivot. Mais on va d'abord saluer Juliette Chapelier. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'UNEF. Juliette Chapelier, le Premier ministre, le gouvernement ont beaucoup reçu, consulté ces derniers temps. Ça va recommencer en janvier, après les vacances. Est-ce que les organisations de jeunesse comme la vôtre, l'UNEF, ont été reçues, consultées depuis que le projet a été présenté?
On n'a pas été reçus. On nous dit souvent que c'est une affaire de jeunes, mais on n'a pas été reçus sur la question des réformes des retraites.
Vous aimeriez l'être?
Bien sûr. Surtout quand on a un gouvernement qui maintient et qui utilise un discours qui est plutôt sur une réforme de retraite qui serait en faveur de la jeunesse, des plus jeunes. Pourquoi on serait pas consulté? Au contraire, je pense qu'il faudrait qu'on le soit. Et nous, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet.
Et alors quoi, justement? Si vous étiez reçu, quel serait votre message prioritaire?
Notre message prioritaire, bah justement, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit juste avant, puisque effectivement, nous, on se rend compte que la situation, elle serait perdante, notamment pour les plus précaires, puisque c'est ce qui est le problème. Et ensuite, c'est aussi un autre sujet, c'est la question. Enfin, on nous dit même une amélioration, par exemple, pour les étudiants salariés qui pourraient cotiser dès leur salariat étudiant. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, cette petite partie dont le gouvernement parle, c'est une petite minorité d'étudiants. Et donc, ça, c'est pour nous aussi une question qu'on se pose sur, encore une fois, utiliser un discours qui serait de valoriser le fait que ce serait plus favorable pour les jeunes. Et surtout, ce qu'on dirait, c'est les plus jeunes qui vont être le plus touchés par une retraite plus précaire, ou en tout cas qui serait moins confortable pour maintenir des bonnes conditions de vie au moment de notre retraite. Et donc c'est surtout ça que nous, on veut démontrer, et surtout qu'on voudrait changer, avoir d'autres propositions qui seraient plus favorables pour la jeunesse.
Alors en même temps, voilà, il y a ce discours aussi qui consiste à dire il faut sauver le système, il faut penser précisément aux retraités de demain, sauver le système. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, disait très récemment dans le Figaro, en réformant, nous garantissons la paix des âges, nous ne pouvons pas laisser à nos enfants une dette écologique, une dette publique et une dette sociale par manque de courage. Il dramatise ou il a raison, Serge Guérin?
Ah là, sur le coup, c'est une espèce de... Alors, sur la dette écologique...
On pourra en parler.
On pourra en parler, et là, il dramatise pas. En même temps, il fait rien. Mais sur la dette économique pour les retraites, c'est une dramatisation totale. Globalement, aujourd'hui, la retraite est équilibrée. Il y a eu plein de réformes. Il y a eu 4 réformes à la suite qui, globalement, ont contribué à baisser, tout simplement, le pouvoir d'achat des retraités. Il y a à peu près 60 milliards d'euros qui ont été enlevés. Voilà. Donc, et on a trouvé globalement un équilibre. Alors là, ils ont ressorti une étude. Selon une des hypothèses, il pourrait y avoir un déséquilibre de 7 milliards. Mais on voit bien que souvent, en plus, c'est lié aux cotisations. S'il y a un peu plus d'emplois, bah, tout simplement, ça s'équilibre. Si la croissance est autour de 1,2, ça s'équilibre. Donc, globalement, on dramatise plutôt d'un seul coup. Alors que, par exemple, le discours au moment des présidentielles et tout ça, c'est de dire, bah, c'est équilibré, il n'y a pas de problème majeur, donc c'est surtout pas là. Ça qui est intéressant, c'est que la retraite à points était posée à un moment donné en disant on n'est pas sur une question économique qui manque de l'argent, on est sur une question plutôt d'équité sociale, qui peut se comprendre, qui peut s'entendre, qui peut se discuter, où finalement vous cotisez et vous avez votre retraite. Et là, d'un seul coup, bing, on ressort, ah oui, non, en fin de compte, on a oublié de vous dire, il y a un gros déséquilibre. En plus, quand on regarde les chiffres, il y a un déséquilibre en un petit temps, puis ensuite, il va y avoir plus de gens qui vont entrer sur le marché du travail et moins de gens qui seront à la retraite, parce que les baby-boomers vont commencer tout simplement à nous quitter. Bon, voilà, donc tout ça fait que, globalement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude très forte sur sur l'équilibre de retraite. Je dirais même, vous savez, on est autour de, ça représente à peu près 14% du PIB, des retraites. On dit, ah, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, l'idée, c'était, faut pas que ça augmente. On peut s'interroger s'il y a plus de retraités et s'il ne faut pas que ça augmente, ça fait peut-être moins d'argent pour les retraités.
Alors justement là-dessus, je vous propose d'écouter effectivement parce que c'est un sujet dont on n'a pas forcément énormément parlé jusque-là dans ce débat. Les 14% du PIB, effectivement, c'est ce qui est actuellement alloué aux pensions de retraite en France. C'est plus que dans les autres pays de l'OCDE et effectivement ce projet de réforme prévoit de sanctuariser cette enveloppe, cette part du PIB, 14%, ce qui pourrait avoir des conséquences dans le futur comme vous le laissiez entendre Serge Guérin. C'est ce qu'expliquent des agents de l'INSEE qui ont fait grève d'ailleurs, Guy Violin de l'INSEE au micro de Delphine Simon de France Inter.
Cette limitation à 14% du PIB, c'est quelque chose qui génère un gâteau de dimension qui peut être confortable, entre guillemets, aujourd'hui, parce qu'on a un système qui le soutient. Sauf que, on vise pour 2040 26% de retraités par rapport aux 20% présents. Et c'est quand même une grosse évolution. On ne peut pas planifier l'avenir en dehors d'une boule de cristal. Et c'est vraiment dangereux de dire on va limiter absolument, sans créer de mécanisme qui permet de corriger, s'il y a besoin, l'insuffisance potentielle des 14%.
Guillaume Duval, sur cette question des 14%, est-ce que finalement ça revient pas à dire aussi comment on fait de la politique à 50 ans sur ces questions-là de démographie, de croissance? Est-ce qu'on a les éléments pour pouvoir dire 14% ce sera toujours la bonne part du PIB à consacrer aux retraites?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le projet du gouvernement, suite à ce qu'a dit Serge Guérin juste avant moi, c'est en fait de faire moins que 14%. Hein. Donc 14%, c'est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ils nous disent, ah oui, mais il y a 10 milliards de déficit en 2025, il faut baisser cette part de 10 milliards. Donc c'est plutôt comment se retrouver à 13,5%. En 2025. Pour la suite, oui, vous avez raison, c'est toujours très difficile de faire des projections à moyen terme, y compris sur le plan démographique, dont on peut penser a priori que c'est la chose la plus sûre, parce qu'on sait combien de gens sont nés, etc. Mais il y a par exemple des éléments démographiques qui sont très très incertains. Aujourd'hui, toutes les projections sont construites sur l'idée que l'espérance de vie va continuer à progresser comme elle a progressé au cours des dernières décennies. Or, ce qu'on note sur les 5 dernières années, c'est que cette espérance de vie, elle progresse beaucoup moins que ce qui était prévu par l'INSEE comme projection centrale. On est plutôt du côté du bas de la courbe. Donc si l'espérance de vie progresse moins, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous, pour l'humanité dans son ensemble, si c'est le cas ailleurs aussi, si l'espérance de vie progresse moins, par contre, le coût des retraites et la longueur des années de retraite risquent de moins progresser aussi dans le futur. C'est aussi un problème vis-à-vis de toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici pour dire on va passer à 43 ans d'annuité pour avoir une retraite complète, etc. Toute cette prolongation de la vie de travail était basée sur l'hypothèse que l'espérance de vie progresserait beaucoup, continuerait à progresser beaucoup dans le futur. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on va raccourcir le temps de retraite des gens, hein. Donc c'est ce que veut faire le gouvernement, notamment quand il veut aller plus loin que ce qui était déjà prévu comme un rallongement de la durée de vie au travail pour avoir droit à une retraite complète. Donc ça va aboutir au fait que les gens vont avoir moins d'années de retraite que ce qui était prévu initialement et moins d'années de retraite que ce qui est le cas aujourd'hui. C'est une autre manière de couper le coût des retraites. Ça, on n'abaisse pas forcément le revenu des retraités, mais on leur laisse vivre moins longtemps à la retraite.
Et en même temps, on peut retourner l'argument. On peut aussi dire que finalement, lorsqu'aujourd'hui le gouvernement dit qu'il y a besoin de mesures budgétaires, en l'occurrence ici l'âge pivot qui déclenche la colère de la CFDT notamment, on peut répondre aujourd'hui comme Serge Guérin, finalement il n'y a pas besoin, il n'y a pas de déséquilibre. Mais ça c'est pareil, on n'en sait rien. Enfin, peut-être qu'il y aura des déséquilibres justement, puisqu'on n'a pas la main sur tous les éléments dont ça dépend. Donc on peut aussi dire que le gouvernement est prévoyant.
Là, on parlait de 2025, on sait à peu près. Là, c'est à 2050 qu'il est un peu difficile de prévoir vraiment précisément. À 2025, on sait qu'il risque d'y avoir un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est lié à deux choses. Il est lié aux exonérations de cotisations que le gouvernement vient de décider sans les compenser, sans que le budget de l'État les compense auprès de la sécurité sociale comme c'était le cas jusqu'à maintenant. C'est notamment le cas des exonérations sur les heures supplémentaires. C'est une affaire qui coûte très cher chaque année à la sécurité sociale et aux retraites en particulier. Et l'autre élément qui fait que on va avoir un déficit, c'est la baisse de l'emploi public qui est programmée aujourd'hui, parce que en réalité aujourd'hui les cotisations des employeurs publics sont plus importantes que les cotisations des employeurs privés. Donc quand on baisse l'emploi public, on baisse en fait les rentrées du système de retraite. Donc c'est là-dessus, c'est ça qui fait on va avoir un petit déséquilibre en 2025. Si on maintenait le niveau des contributions financières qui sont faites aujourd'hui pour financer le système des retraites au niveau de 2018, il n'y aurait aucun déficit en 2025 parce qu'il n'y a aucune explosion prévisible des dépenses de retraite, et il n'y en aura pas. C'est simplement le fait que le gouvernement s'organise pour créer un déficit des retraites qui fait qu'il faut le combler. Mais pour le combler, si on prend quelques mesures pour maintenir le niveau actuel du financement des retraites, il n'y aura pas de déficit.
Juliette Chapelier, vous à l'UNEF, comme beaucoup d'autres, voilà, vous critiquez cette réforme, vous avez manifesté contre, vous allez de nouveau le faire, mais en même temps, cela fait longtemps déjà que beaucoup de jeunes, y compris certains qui le sont moins aujourd'hui d'ailleurs, considèrent de toute façon qu'ils n'auront pas de retraite ou de toute petite retraite. On le voit dans des enquêtes d'opinion, mais c'est aussi voilà un discours général comme ça qui on s'entend dire, y compris sur le ton de la blague, mais toi de toute façon, t'auras pas de retraite. Donc, et ça existait avant cette réforme. Donc, ça veut dire déjà que préexistant à cette réforme, il y a quand même une forme d'angoisse ou voilà vis-à-vis de ce futur qui paraît très très loin quand on est jeune, où on part du principe que de toute façon on n'en aura pas.
Oui, c'est un peu compliqué. Enfin, nous, ce qu'on remarque et ce qu'on dénonce aujourd'hui depuis le début du quinquennat de Macron, c'est qu'on a quand même une génération qui subit un bizutage social sur plusieurs raisons. On a eu des impacts sur nos aides sociales avec la question des APL. Ensuite, on a eu aussi la question des frais d'inscription. Enfin, on a eu tout un tas de mesures qui ont plutôt été régressives pour les étudiants et qui ont impacté notre précarité étudiante directement ou alors notre accès à l'enseignement supérieur. Et le fait que je réponde en premier lieu par ça, c'est pour en découler sur une deuxième chose, qui est d'expliquer aussi qu'on a une génération qui a conscience qu'on a une situation qui est difficile, de par un gouvernement qui ne veut pas entendre la question de nos besoins et de ce que nous, on a besoin aujourd'hui durant nos études. Et un deuxième champ, qui est un gouvernement qui n'agit pas non plus sur la question climatique. Et ça, c'est aussi une question de précarité. Donc, nous, ce qu'on explique, c'est que, de toute façon, quand on commence nos études, on est déjà dans une situation de précarité. On a 50% des étudiants qui travaillent pour financer leurs études. On a des étudiants qui ne sont pas du tout éligibles au système de bourse, etc. Tout ça, c'est déjà quelque chose qui crée une angoisse chez les jeunes. Ensuite, on a un problème sur l'insertion professionnelle qui, effectivement, est toujours plus protégée quand on a des diplômes. Mais par contre, ça ne suffit pas aujourd'hui pour se dire qu'on va être protégé déjà pour trouver du travail, mais ensuite pour trouver du travail qui pourra convenir à une situation de vie qui sera correcte, notamment au niveau du salaire. Et là, on nous impacte aussi sur cette réforme. Donc oui, il y a une angoisse. Non, on n'est pas résigné, si c'est la question.
Effectivement, non, mais ce que je veux dire, c'est aussi une question pour vous, Serge Guérin, c'est que cette angoisse des jeunes qui, effectivement, au moment où l'on parle, ne sont pas les mêmes personnes par définition, vis-à-vis de la retraite, elle a toujours existé, non?
Oui, ça fait très très longtemps qu'il y a un discours du genre « moi, j'aurais pas de retraite ». D'ailleurs, à peu près 40% des moins de 35 ans disent « j'aurai pas de retraite ». Ce qui est intéressant
mais
d'ailleurs.
Mais pourquoi en fait ? Pourquoi on accepte de penser ça ?
Oui, alors déjà, première chose, par exemple, ce gouvernement actuel, quand il a commencé à réduire de fait la retraite ou le pouvoir d'achat des retraités, il s'est étonné, et nous, ça venait dans notre sens, hein, il n'y a pas de guerre de génération, que même les plus jeunes même s'ils se disaient « j'aurai pas de retraite », pour autant, ils veulent pas la baisse de la retraite de leurs grands-parents. Parce que simplement, ils savent que grand-mère ou grand-père, ils ont pas 4000 euros par mois, quoi. Ils ont 1000 euros, 1200 euros. Donc, ils disent, de toute façon, c'est pas des privilégiés. Donc là, on voit que même si les gens sont convaincus de ne pas en avoir, voilà. Deuxième chose, en effet, il y a une sorte de réussite idéologique de dire aux gens, vous n'aurez pas de retraite. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, vous n'aurez pas de retraite? Ça veut dire, capitaliser. Aller voir les assurances. C'est quand même ça qu'il y a derrière. Et, or, c'est totalement faux. Les jeunes, comme les autres, auront une retraite. Mais simplement, on instille un petit truc du genre, oui, il va y avoir un flop, il va y avoir une faillite. D'ailleurs, François Fillon avait parlé de faillite des retraites. Une retraite sur 10 n'est pas financée, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un problème, d'où d'ailleurs un certain nombre de réformes qui font qu'aujourd'hui, le système fonctionne. Je voudrais dire aussi que, donc, première chose, il y a une défiance qui, pour autant, ne crée pas de conflit de génération, ce qui est plutôt une bonne chose. Deuxième élément, toutes les générations sont embarquées. Ce que vous disiez, oui, mais les plus anciens, ils n'ont pas eu de problème, tout ça, depuis 1974.
Non, ils n'ont pas eu de problème. Ouais.
Mais rappelons que depuis 1974, c'est ce qu'on appelle la crise économique. Donc toutes les générations qui arrivent à la retraite aujourd'hui ont connu des problèmes d'insertion, à des moments ou à des autres. Et que par ailleurs, aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de rentrer sur le marché du travail, c'est d'y rester. La première des stigmatisations, c'est l'âge. Vous avez plus de 50 ans aujourd'hui dans le privé, vous perdez votre job, vous avez quasiment aucune chance de le retrouver. Et puis troisièmement, je voudrais dire, parce que trop souvent, l'idée de toute façon, c'est remplacer la lutte sociale par la lutte des âges. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Or, je rappelle une chose toute bête, par exemple, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie pour les hommes, 8 ans pour les femmes, 13 ans d'écart d'espérance de vie pour les hommes entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Donc quand on parle de retraite et tout ça, il faut aussi intégrer qu'on n'est pas à égalité. Si vous prenez votre retraite au même âge, ben, y en a qui vont en profiter 13 ans de plus. Évidemment, c'est les plus riches. Donc, il y a aussi tout ça à intégrer. Donc, on cache derrière des problématiques d'âge, des problématiques sociales extrêmement fortes. Boom, okay, boom, you're a boom, okay, boom.
France Culture, le temps du débat, Chloé Cambrelin. Alors il faut expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore entendu ou lu des explications à propos de cette expression « ok boomer ». C'est donc un mème, c'est ça comme on dit, une expression qui est en train de connaître un petit succès. « Ok boomer », ça signifie en gros « cause toujours baby boomer, tu as bien profité de la croissance sans penser à ceux d'après, tu ne comprends rien à mon monde ». Je vous conseille le billet politique de Stéphane Robert de vendredi dernier sur France Culture qui nous expliquait bien voilà les contours de cette expression. Juliette Chapelier, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans dans ce discours un peu qui consiste à dire voilà, il y a une espèce de génération dorée pour qui tout se passait bien et puis ils ont avancé comme ça, ils ont profité sans penser à ceux qui arrivaient derrière.
Moi, je pense pas que je m'y retrouve et je pense que c'est aussi une sorte de stratégie de vouloir nous emmener vers ça, encore une fois, de
une stratégie diviser. De qui? Stratégie politique?
Ouais, une stratégie politique de nous diviser, de faire en sorte que, enfin, cette réforme des retraites, elle touche les plus jeunes et donc si elle était si bien que ça, pourquoi déjà elle serait pas appliquée à toutes et à tous et surtout à la majorité des personnes qui décident dans notre pays et qui sont souvent plus âgés que les concernés qui vont être concernés par cette réforme. Et je trouve que... Enfin, je m'y retrouve pas parce que, au-delà du fait que c'est aussi pour diviser, chaque génération a eu ses difficultés, et ça a été dit plus tôt, et je suis plutôt d'accord avec ça. Et au-delà de ça, je crois pas que la question, ça soit de savoir est-ce qu'il y en a qui ont profité d'un système qui, pour le coup, était quand même basé sur le collectif et la solidarité. Donc, je pense que c'est quand même important à rappeler, et je pense pas que ça soit une profiter. Je pense plutôt qu'aujourd'hui on se pose la question de comment réformer le système de retraite et que la seule solution pour expliquer que la capitalisation serait la solution, c'est plutôt de tendre un peu le bâton sur les générations d'avant les nôtres et qui auraient profité de cela. Mais moi je pense que c'est enfin, c'est faux, quoi.
Et en même temps, Édouard Philippe a bien commencé le 11 décembre son discours en répétant que justement l'enjeu, c'était bien de sauver le système par répartition auquel la France est très attachée. Guillaume Duval, considérez que ce nouveau système avec cette réforme va être particulièrement défavorable aux plus jeunes, notamment à cause des débuts de carrière souvent plus compliqués. C'est aussi partir du principe que la situation des jeunes d'aujourd'hui, de demain, ne va pas s'améliorer, que le chômage va rester élevé, qu'il sera toujours compliqué d'entrer dans le monde du travail. On n'est pas non plus obligé de penser que ça va toujours se passer comme ça.
Oui, absolument. Hein. Donc, avant de venir sur ce point, je voudrais juste insister un peu sur ce qu'a dit Serge Guérin tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, j'ai 63 ans, je suis un baby-boomer typique. Quand j'ai commencé à travailler en 1980, il y avait déjà quasiment, enfin au début des années 80, il y avait déjà quasiment 10% de chômeurs. Et dans les 15 années que j'ai passées dans l'industrie avant de basculer dans le journalisme, j'ai connu des plans sociaux tous les ans dans les entreprises où j'étais. Hein. Donc, quand on avait à acheter une maison à l'époque, on avait des taux d'intérêt à plus de 10% avec des taux d'intérêt réels beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Donc dire que tous ces gens-là ont connu une période dorée et qu'ils sont pas fait qu'ils ont pas eu de soucis, c'est tout à fait inexact, hein. Donc les gens qui s'en sont bien sortis à la retraite, c'est plutôt mes parents, donc les gens des années 30, nés dans les années 30, qui ont mangé des topinambours pendant la guerre, mais qui, après-guerre, ont connu effectivement des carrières sans trop de difficultés pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Mais c'est pas vraiment les baby-boomers dont il est question. Pour l'avenir, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, les jeunes, ils ont des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas que jamais pour accéder à la propriété. Alors, les prix de l'immobilier sont élevés. Oui. Ils sont moins nombreux que les générations des baby-boomers. Donc, ils ont moins de difficultés et ils en auront moins dans le futur à s'insérer sur le marché du travail. C'est ce que Serge Guérin a souligné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes de la crise, enfin, depuis 2008, ceux qui ont eu le plus de problèmes, c'est les seniors, hein, c'est des plus de 50 ans. Là, il y a trois fois plus de chômeurs aujourd'hui de plus de 50 ans qu'en 2008. Mais du côté des jeunes, ça s'est plutôt relativement bien passé. Il n'y a pas plus de difficultés aujourd'hui qu'avant la crise, il y en a plutôt moins. Et ce qu'on voit, c'est effectivement plutôt la précarité diminuer un peu à ces niveaux-là au début de carrière. Et on peut penser que ça va continuer comme ça parce que de plus en plus d'économies, l'économie allemande est déjà très largement dans cette situation, mais d'autres pays occidentaux vont y entrer, ils vont avoir besoin de jeunes qualifiés, ils vont plutôt en manquer qu'autre chose au cours des prochaines années. Donc l'idée que ça va se passer pour les jeunes au cours des prochaines décennies comme ça s'est mal passé au cours des dernières est sans doute là aussi inexact. On a toujours tendance à extrapoler pour le futur ce qui s'est passé dans le passé, mais on se trompe toujours en faisant ça.
Serge Guérin.
Plusieurs choses. La première, d'abord je me félicite qu'une organisation de jeunesse tombe pas dans le panneau. On va opposer finalement les générations. Et l'histoire d'Hockey Boomer, c'est totalement ça. On y reviendra peut-être après. Deuxième élément, sur les jeunes, un peu pour les vieux c'est pareil, il y a deux catégories. Je schématise bien sûr. Il y a ceux qui ont globalement une bonne formation, et qui aujourd'hui sont plutôt en position de force, parce que les entreprises n'ont pas assez de personnes compétentes. Donc celles-ci, elles se les arrachent. Je suis prof dans une école de commerce, il n'y a pas de sujet pour ces étudiants-là, les gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, les gens qui ont fait l'informatique, ainsi de suite. Le problème, c'est pour des gens ou qui ont pris plutôt des voies de garage dans l'université, et il y en a un paquet, ou des gens qui ont carrément très peu, voire pas de diplôme, voire pas de formation, et ceux-là peuvent être vraiment dans des angles morts absolument dramatiques. Pareil pour les seniors, d'une certaine manière, ceux qui sont très diplômés, globalement, ça tourne, même s'ils commencent à être âgés. En revanche, pour tous les autres, c'est une catastrophe aujourd'hui. Donc la question, elle est en grande partie aussi, encore une fois, une question de formation et de marché du travail. La deuxième chose, c'est de rappeler quand même que la retraite, vous l'avez dit très bien, c'est de la répartition. C'est-à-dire que les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, un jour on me disait, oui, c'est des dépenses sociales. Mais c'est pas des dépenses sociales. Les gens, ils ont cotisé avant. Donc c'est pas l'État qui, dans sa grande gentillesse, va leur donner.
Il n'est pas question aujourd'hui de toucher au système par répartition. On est d'accord.
Bah, ça commence. Parce que quand, par exemple, vous supprimez les cotisations pour les gens, alors c'est plus de 100 000 euros, je crois, de revenus, ce qui commence à être quand même assez sérieux, ces personnes-là, maintenant, avant, cotisaient, je crois, 8 fois le plafond, aujourd'hui, c'est 3 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Vous cotisez moins, donc vous aurez moins de retraite, mais l'argent que vous cotisez pas, pour le système global, bah, vous avez qu'à le mettre dans les pensions.
Oui, mais les très hauts revenus. Oui,
donc on commence à rentrer on commence à organiser de fait un système par capitalisation sans le dire. Est-ce qu'il y a derrière, je suis pas du tout dans le complotisme et tout ça, et au début j'avais pas du tout vu la chose, mais je m'aperçois quand même qu'il y a, il me semble qu'il commence à y avoir une tentation assez forte de dire à un certain nombre de personnes, voyez bien que le système va pas marcher pour vous, mettez de côté et allez voir un certain nombre de compagnies d'assurance. Et là, on rentre dans quelque chose qui d'abord casse la solidarité, parce que la retraite par répartition avait cette force extraordinaire, a cette force extraordinaire depuis 44, c'est de créer de fait de la solidarité. Et encore une fois, c'est pas le bon État qui gentiment donne de l'argent aux retraités. Ce sont des gens qui ont cotisé toute leur vie, c'est une sorte de salaire par un différé, quoi. Vous touchez pas au moment où vous travaillez, vous payez pour ceux qui sont déjà à la retraite et demain vous aurez la retraite. Du coup, c'est un système où là on se projette à demain et on fait confiance à demain. Et là, on est en train un petit peu de remettre en cause cet élément-là.
Et en même temps, voilà, Éric Le Boucher récemment dans les Échos, dans un article chronique édito titré "La France des grands-pères", rappelait qu'en France, les retraités gagnent en moyenne, évidemment, c'est qu'on parle pas de bloc, mais en moyenne, 5% de plus que les actifs. Cette différence, dit-il, va s'agrandir. Et vous l'avez rappelé vous-même, lorsqu'Emmanuel Macron a repris un peu ce discours de, finalement, de solidarité intergénérationnelle en disant, les retraités, voilà, on va augmenter votre CSG, mais c'est pour soutenir, les actifs et le pouvoir d'achat des actifs. Ça s'est très mal passé. Il a dû reculer, d'ailleurs.
Oui, ça s'est très mal passé pour trois raisons. La première, ce que dit Éric Le Boucher est totalement faux. On raconte ça à chaque fois. On dit en moyenne, ah oui, les retraités touchent un peu plus que l'ensemble des autres. Mais si dans l'ensemble des autres, vous enlevez les 18-25, eh ben les retraités touchent pas plus. Et alors, c'est peut-être mon
oui,
côté
réac. Oui, mais les
18-25,
ils existent aussi.
Bien sûr qu'ils existent. Mais je trouve assez normal, mais c'est peut-être réactionnaire de ma part, je trouve assez normal que quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 40 ans gagne plus que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Ça me paraît pas choquant. Donc, quand on enlève les personnes qui ne sont pas encore en emploi, les retraités ne gagnent pas plus que les autres. Deuxième élément, on oublie que au sein des retraités, il y a des écarts monstrueux entre des femmes qui parfois ont moins de 1 000 euros par mois et des gens qui sont à 10 000 euros par mois, sans compter la question des patrimoines. Parce que globalement, pour faire un vieux riche, il a fallu un jeune riche, généralement. Et pour faire un vieux pauvre, il a fallu généralement un jeune pauvre. Donc encore une fois, on cache la question sociale autour de ça. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, l'autre élément, c'est de se dire, finalement, les choses, elles ne bougent pas. C'est de dire, les retraités, globalement, servent à rien. Or, on peut être utile à la société bien autrement qu'en travaillant. Les retraités, c'est le tissu premier, alors pas l'UNEF, mais c'est le tissu premier du monde associatif. Vous n'avez pas les retraités, le tissu associatif s'écroule. C'est eux qui font tenir, et là où l'État recule, c'est les associations qui viennent. Si les retraités sont plus là, regardez au Restaurant du Cœur. Vous avez des gens qui viennent manger, parce qu'ils n'ont plus les moyens, vous avez plein de gens aussi qui viennent donner. Donc, sans les retraités. Par exemple, je prends juste cet exemple. Donc, les 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants. Donc, s'il y avait une grève, entre guillemets, des retraités, mais le pays est par terre. Donc, on veut résumer notre utilité sociale à notre boulot. Il y a des gens qui ont un boulot dont l'utilité sociale, je demande ce qu'elle est. Et il y a des gens qui sont bénévoles et l'utilité sociale est extraordinaire.
Juliette Chapelier, dans un tract commun signé par des organisations de jeunesse et notamment par l'UNEF, il est écrit que le gouvernement se sert des nouvelles générations comme hypothèque. C'est-à-dire ?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que nous, ce qu'on dénonce réellement, c'est que au vu des dernières annonces qui ont été faites, c'est ce qu'on voit en priorité, c'est que la réforme qui a été annoncée, elle va concerner déjà plus on est jeune, plus on est précarisé globalement, parce que ce qu'on voit, c'est que le taux de remplacement plus on arrive à être né tard, moins il va être élevé. Ensuite, plus on est jeune et plus on va avoir de difficultés à pouvoir avoir une retraite qui déjà sera sur un âge qui soit satisfaisant et qui permette justement d'avoir une possibilité de ne pas continuer à travailler dans une situation où on n'a plus les possibilités. Et donc ça, pour nous, c'est entre guillemets se servir de la jeunesse comme hypothèque, parce que aujourd'hui, le gouvernement, il considère que il va mettre les difficultés sur nous, et c'est sur nous qu'il va tester son projet qu'on dénonce. Et du coup, c'est pour cette raison-là qu'on le pose comme tel. Et c'est aussi sur une autre raison sur laquelle on était plutôt d'accord dans ce même communiqué, c'est toutes les problématiques aux alentours. C'est-à-dire que avant d'être à la retraite, on est déjà précarisé sur un certain nombre de choses.
Et donc, oui, on sait bien que la précarité étudiante, c'est aussi un sujet en soi. Guillaume Duval, au-delà de cette réforme précisément, c'est quand même paradoxal parce que voilà, on voit que cette réforme des retraites, elle est mal reçue, bon en tout cas par l'UNEF, mais il n'y a pas que l'UNEF, il y a vraiment une grande majorité d'organisations de jeunesse qui sont opposées, qui pensent que voilà, les jeunes vont être défavorisés, et en même temps, l'argument, c'est de dire qu'on agit pour les générations futures. En même temps, cet argument-là, c'est tout de même aussi un classique de la politique. Et en même temps, ça n'est pas complètement anormal aussi de dire qu'on agit pour les générations futures.
Les générations futures ont raison de se méfier. C'est-à-dire qu'en particulier, la problématique de passer à un système par points, c'est qu'on change la logique du système de retraite par rapport au système actuel. Donc on a un système aujourd'hui qui s'appelle à prestation définie. Donc on sait à peu près combien on va toucher en fonction des salaires qu'on a eu durant sa retraite. Avec le système par points, on ne sait plus. C'est un système à cotisation définie. Vous savez ce que vous avez payé, mais vous ne savez pas ce que vous aurez, parce que ça dépendra de la manière dont on aura fait évoluer le point jusqu'à ce moment-là. Donc les jeunes ont raison de se méfier de ce système, en ce sens que c'est, enfin surtout dans la Ve République française où c'est Bercy qui décide et le Parlement qui ne fait qu'entériner ce que le gouvernement a décidé, ou dans la Ve République française où c'est une mécanique qui risque d'aboutir, de permettre, de faciliter le fait qu'on fasse baisser les retraites dans le futur et le niveau des retraites dans le futur. Donc là-dessus, je ne pense pas effectivement que le gouvernement ait vraiment en tête le bien-être des jeunes générations d'aujourd'hui et le retraite futur quand il propose cette mesure. C'est surtout, il vise surtout à limiter les dépenses de retraite dans le futur parce qu'il pense que le nec plus ultra, c'est d'avoir des niveaux de dépenses publiques les plus bas possibles. Si ça c'était vrai, le Zimbabwe se porterait beaucoup mieux que nous. On voit bien que les pays qui se portent bien, y compris sur le plan de l'innovation, c'est plutôt des pays qui ont des niveaux de dépenses publiques élevés. C'est toujours le Danemark, la Suède, etc. qu'on nous cite en exemple. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des pays qui ont des niveaux de solidarité tels que les inégalités sont limitées, que les gens se sentent libérés pour innover, pour être bien formés, etc. Donc l'idée que ce soit en baissant les dépenses de retraite qu'on va se sentir mieux pour le futur me paraît tout à fait inexacte. Et en tout cas, c'est sans doute ça que prévoit le gouvernement aujourd'hui aux dépens des jeunes générations.
Et quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on peut s'étonner, Serge Guérin, de ce que voilà, Juliette Chapelier nous disait au début, à savoir que les organisations de jeunesse n'ont pas été reçues quoi, ou consultées, écoutées depuis que le projet a été présenté. Est-ce que finalement, le meilleur moyen d'aller aussi contre cette idée de guerre des générations, qu'encore une fois, vous ne voyez pas, ça n'aurait pas été, par exemple, de faire une grande convention citoyenne, comme on fait sur le climat, pourquoi pas sur les retraites? A priori, s'il y a bien une question qui concerne tout le monde, c'est celle-ci, non?
Mais tout à fait d'accord, je ne vois pas la guerre des générations dans la société, mais je vois qu'il y a une tentation du gouvernement de la créer. Or, s'il y a quelque chose qui marche bien en France, la mixité sociale, c'est défendu par les gens qui la vivent pas. La mixité culturelle, c'est défendu par les gens qui la vivent pas. Mais la mixité intergénérationnelle, comme par hasard, c'est contesté, alors même que c'est l'élément le plus naturel qui soit et le plus présent qui soit dans les entreprises, dans les familles, dans le tissu associatif. Et là, c'est comme si on voulait essayer à toute force de la créer. Et donc, en effet, il n'y a aucune raison que les jeunes, comme les vieux, comme les actifs, comme tout ce qu'on voudra, ne participent pas à ce débat national où, à un moment donné, il faudrait quand même que ce soit la société française qui décide et pas 3-4 technocrates dans un coin.
Merci, merci.
Qui peuvent être très jeunes, ces technocrates.
Merci à vous, Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement. On a cité La guerre des générations aura-t-elle lieu avec Pierre-Henri Tavoyot chez Calman Lévy. Votre dernier livre également chez Calman Lévy s'appelle Les Quinquados, les 45-60 ans, c'est ça? Merci à vous, Juliette Chapelier, secrétaire générale de l'UNEF. Vous serez dans la rue 9 janvier pour la prochaine journée de mobilisation. Et merci à vous, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives économiques. C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Cyril Marchand, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André. À la technique ce soir, Thibaut Nassimben. À la réalisation, Alexandre Manzanares.